19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM en ce mardi 24 novembre 2020. Et oui, toujours en live comme chaque soir du lundi au vendredi, on le rappelle, 19h-20h, c'est le créneau horaire de votre quotidienne sportive qui est Time Sport. Au menu de cette émission ce soir, oblige, on parlera de cette fameuse Ligue des Champions, cette coupe aux grandes oreilles. On espère qu'il portera chance à un de nos clubs français, Paris, Leipzig, le match de la peur peut-être pour les hommes de Thomas Tuchel. On va parler aussi de l'Olympique de Marseille, espérer prendre au moins un point, c'est l'objectif, et oui, loin du ridicule, comme le disait un certain Florian Thauvin. Rennes est-il capable justement de renverser sa situation en Ligue des Champions face à un ogre anglais qui est les Blues de Chelsea, les déclarations aussi de la pépite du football français. Bon, je ne veux pas parler de Kylian Mbappé, mais plutôt Antoine Griezmann du côté de Barcelone. Avez-vous définitivement enterré le leader qui voulait s'asseoir à la table de Léo Messi ou encore Cristiano Ronaldo? On parlera assez rapidement, mais on aura un mot concernant le championnat nord-américain de basketball. Et oui, la NBA, la saison qui reprend un 22 décembre. C'est bien ça. Voilà. Le petit clin d'œil à toutes les auditrices et les auditeurs de Beurre FM, toujours de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter en cette période. Mais aussi le numéro du standard, on le rappelle, le 01 53 48 3000. Et sans oublier le numéro, excusez-moi, le hashtag sur la twittosphère, Farid Rouas, à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire, notre fameux CM. Voilà, toujours là et prêt à dégainer l'info sportive. C'est parti, go go Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura notre consultante Alison. Comment ça va Alison?
Ça va et toi Bilal?
Ça va très très bien Alison, soir d'Europe. Hein, on va bien parler ce soir.
On va en parler.
Le club français, on espère une victoire en tout cas.
Les clubs français en péril ce soir, on attend peut-être des victoires.
Eh oui. Et tout comme Fred, qui fait sa première avec nous ce soir. Bonsoir Fred, comment ça va?
Bonsoir Bilal, ça va super.
Ah ben nous aussi, on espère, on essaye de te mettre à l'aise, hein, Fred. Hein, tu respires, tu pues le football comme on dit. Hein, tu es là, tu es avec nous, il va falloir y aller, hein, parce qu'en face de toi, on a le coach Tollet et sans oublier Meshad. Comment ça va Meshad?
Très bien. Ouais. Moi, je savais que je suis là, Bilal. Voilà.
On espère, Meshad, on espère. Le coach Tollet est toujours là. Comment ça va?
Salut
le coach?
Tout le monde, ça va bien, impeccable.
Ok, on prend la.
Il fait froid, très froid.
Il fait très froid.
Ouais,
c'est fou. Ah, mais attends. Pour toi, tu n'as pas froid, toi. Tu viens de Göteborg, c'est bien ça. À chaque fois, tu nous rappelles,
exactement,
justement. Arrête, le coach
Tollet.
Ah, Belgrade, cette fois-ci. Ouais. Aïe, aïe, aïe. L'étoile rouge qui avait fait du mal à un certain Olympique de Marseille en 1991. Les souvenirs qui font pleurer le coach Tollet. Mais nous, on va s'attarder sur la porte d'Auteuil.
Time Sport, le ras-le-bol.
Eh oui, que dire. Leonardo, excusez-moi. Leandro Paredes, poussé peut-être vers la sortie par un certain Leonardo. Alisson, on n'en comprend plus. Le directeur sportif parisien. Des embrouilles par-ci, des embrouilles par-là. Que dire? Ce soir, la victoire pour les hommes de Thomas Tuchel.
La victoire est impérative du côté du Paris Saint-Germain. Ils sont troisième du groupe à égalité de points avec Istanbul. Là, ils rencontrent Leipzig, une équipe qu'ils connaissent assez bien pour le coup. Et l'objectif, en tout cas, pour rester en vie dans cette Ligue des Champions et pourquoi pas accrocher la deuxième place et même voir la première place, parce que rien n'est joué encore dans ce groupe. Il faut une victoire. En tout cas, du moins, il ne faut pas perdre contre Leipzig, sinon ça serait se tirer une balle dans le pied. Et dire peut-être adieu à cette compétition.
Alors Fred, on l'écoute.
Moi cette situation elle me fait penser à la situation dans laquelle on était lorsque dans notre groupe il y avait Liverpool, Naples et Red Star Belgrade.
Ouais.
On avait 4 points, Naples et Liverpool avaient 6 points. Et voilà, c'était un tournant et on a fini par se qualifier.
Ouais, le Paris Saint-Germain, quand même, c'est pas. On espérait mieux peut-être finaliste de cette fameuse Champions League la saison dernière. Aujourd'hui, c'est un peu mitigé, on a l'impression. Les relations sont-elles bonnes pour toi?
Non, au sein du PSG, on sent que d'une part, il y a une crise sportive entre Leonardo, Tuchel qui a été choisi par l'émir du Qatar. Donc Leonardo ne peut pas entre guillemets, le dégager comme il veut.
Ouais.
On sent qu'il y a un clash entre les deux. Il y a eu un mercato. Le mercato, il a donné quoi? Danilo, il arrive, on le prépare dans les pires conditions. Il rentre dans un match contre Manchester United, il ne joue pas à son poste. Il y a des polémiques autour de lui. Il arrive en méforme, il est cramé. Ce soir, il est titulaire.
Ouais, c'est ça. Ouais, titulaire. Anelo, que dire, Meshad?
Moi, j'avais envie de dire
du Paris Saint-Germain.
J'avais envie de dire une victoire ou rien, mais
ce soir.
Parce que je suis chauvin et que j'espère pour la représentation de la France dans cette un issue UEFA et pour le rayonnement du championnat français dans cette Ligue des Champions que Paris gagne, parce qu'on a besoin de Paris au plus haut niveau. Sauf que j'ai aussi envie de souhaiter une défaite, parce que je pense qu'une défaite, même un match nul, réglerait le sort de Thomas Tuchel. En tous les cas, il le faut, parce que visiblement, ça ne va pas. Tactiquement, ça ne va pas. Quand on regarde le match qu'ils ont perdu contre Monaco, même dans l'attitude des joueurs, désormais, ça se ressent. L'entrée en jeu de Neymar, elle est ce week-end, elle est catastrophique. Et donc, je pense qu'effectivement, Tuchel n'a plus la main mise sur son groupe et qu'à un moment donné, il faut réagir. Et donc, quoi de mieux que de réagir qu'un mauvais résultat, malheureusement. Voilà, je suis assez partagé, pardonnez-moi.
Ouais, le coach Tolé.
On a reçu Paulo César hier soir.
C'est ça.
Paulo César, qui connaît bien la maison, qui a évolué au Paris Saint-Germain durant plusieurs saisons, et qui nous indiquait hier, qui est lui adjoint des féminines 19 ans, qui nous indiquait qu'il sentait qu'il y avait le groupe n'était pas heureux au quotidien. Et ça veut tout dire. Comment, en étant vice-champion d'Europe, t'es quand même malgré tout leader de Ligue 1, avoir ce souci-là. Donc, on sentait qu'il y avait quand même une certaine retenue, mais ça montre quand même que voilà, que le ressort est cassé.
Mais en plus, le ressort est cassé, mais où justement on parlait de Tuchel, on parlait du vestiaire.
Je pense que c'est une gestion.
Il y a une véritable scission, une véritable, complètement une guerre d'ego entre Leonardo et Thomas Tuchel. Leonardo, il a une philosophie qui n'est pas du tout celle de Tuchel. Tuchel a ses idées. C'est le coach allemand par excellence qui ne dérogera jamais à sa philosophie de jeu. Tuchel, c'est quelqu'un qui met des schémas tactiques en place qui lui appartiennent. On a parlé de Danilo. Tout le monde sait que Danilo n'est pas un défenseur central, mais il persiste avec le fait de le mettre en défense centrale, alors que lui-même a déclaré qu'il était beaucoup mieux au milieu et il joue à ce poste-là. Il a plutôt des belles performances avec l'équipe du Portugal. Il y a cette guéguerre et finalement jusque-là, le groupe était plutôt derrière Thomas Tuchel, mais on voit que finalement ces hommes-là ne commencent à lâcher peu à peu Tuchel, même si Marquinhos pour la dernière rencontre de Ligue des Champions affirme haut et fort être derrière son groupe, mais c'est juste de la communication. On sent vraiment que c'est en train de se scinder en deux, voire en trois.
Marquinhos, c'est un joueur de devoir, donc forcément il a cette communication-là. Mais même Tuchel, il est même plus logique. Alors, c'est-à-dire qu'il commence avec Danilo, défenseur central. Finalement, il change, il le remet au milieu de terrain. Tu vois, quelle est la logique derrière tout ça ? À quoi il joue, quoi ? Moi, c'est ça que j'ai envie de me poser comme question. C'est à quoi tu joues ? C'est-à-dire, est-ce que tu veux être viré ? Est-ce que tu veux rester ? Est-ce que tu veux partir ? Leonardo, il essaye de, en tout cas, publiquement, d'éteindre l'incendie. Sauf que lui, son langage corporel, par exemple, sur le bord du terrain, mais c'est une catastrophe.
On dit qu'il en fait trop, peut-être, Leonardo.
Non, il en fait pas assez. Leonardo, il en fait trop.
On dit qu'il en fait trop de rentre dedans aux joueurs du Parisien.
Il est bloqué.
Du PSG, excusez-moi.
Mais Bilal, quand tu regardes le match contre Monaco, la seconde mi-temps du match contre Monaco, elle n'est pas digne d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Elle n'est même pas digne de joueurs professionnels. Neymar, quand il rentre en jeu, moi je parle de Neymar, mais son entrée en jeu, Neymar, enfin, mec, si t'as pas envie de jouer au foot, dis-le clairement à ton coach et ne rentre pas en jeu, parce que tu gâches ce qu'essaye de mettre en place l'équipe. L'erreur de Diallo, c'est l'erreur d'un défenseur qui est sous tension. Et vous, je sais pas, tout le monde l'a vu cette erreur. Enfin, c'est un mec qui est pas serein qui fait cette erreur là. Donc il y a une ambiance au sein de ce club là, et vraiment je pense qu'il faut un coup de balai, quoi. Enfin,
là où je suis d'accord avec le fait que Leonardo en fasse un petit peu trop, c'est le fait qu'il intervienne constamment dans les choix entre guillemets de Tuchel, là où quand il va parler directement aux joueurs à la place limite de l'entraîneur, je peux comprendre le point de vue de certaines personnes qui disent qu'il en fait trop. Et a priori, le rôle d'un directeur sportif n'est pas celui-là en premier. Mais le point de vue de Leonardo, je peux aussi le comprendre. Quand on a une équipe comme le Paris Saint-Germain, quand on est directeur du Paris Saint-Germain, on attend certaines choses. Et comme tu l'as dit, Meshad, pour l'instant, ces choses-là ne sont pas au rendez-vous, surtout cette saison-là. La saison dernière, vraiment, la finale de la Ligue des Champions, c'était l'arbre un peu qui cachait la forêt. Mais là, on est en train de voir vraiment les failles du Paris Saint-Germain, clairement.
Il y avait un point qui m'avait interpellé lors du Final 8, c'est Mbappé qui avait dit maintenant on a compris qu'on devait évoluer ensemble. Pour moi ça m'avait interpellé, c'est-à-dire que t'as compris quoi, t'as compris ce que tu dois faire régulièrement. Non, mais c'est ça, interpellé. Bien sûr, ça montre quand même que déjà ça date pas malheureusement d'aujourd'hui, et là avec tout ce que l'on ressort, on sait que Leonardo est aussi bloqué parce que On aura entendu que des joueurs seraient allés à la rencontre justement du directeur sportif, mais lui ne peut rien faire parce que c'est au-dessus que ça se décide. Quand on entend aussi qu'au niveau du staff médical, c'est aussi un peu le bordel, qu'un tel ne parle plus à un tel, que chaque joueur a un peu son préparateur physique. C'est tout un ensemble où ça va pas.
Alors justement, le PSG, on a une réaction de Fala, le PSG qui nous dit que le PSG face à Monaco, c'est une faute de professionnalisme et surtout il le disait avec ses amis, que Léo peut-être infecte le PSG et son vestiaire.
Alors, je vais laisser Fred parler et je vais répondre.
Bien sûr. Et après, on aura Jouba aussi, qui est au téléphone de la Réunion.
Là où je suis d'accord avec toi, c'est vrai que Marco Verratti avait dit là, cette année, avec les joueurs, on a fait un pacte d'aller le plus loin possible. Donc, depuis que tu es au PSG, en fait, chaque année, tu la joues comment, la Champions League, si tu as décidé cette année de faire un pacte.
Ouais.
Ensuite, c'est vrai que le PSG de Tourelle, on ne connaît pas son vrai niveau. On ne connaît pas son vrai style de jeu. On lance la pièce à chaque match. Chaque mi-temps, Monaco ou Leipzig, la première mi-temps, elle est intéressante. La seconde mi-temps, c'est tout l'inverse. Donc c'est compliqué. Après, dans un club de foot, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une symbiose entre le directeur sportif et le coach. Il faut que le coach décide des joueurs qui s'entendent avec le directeur sportif. C'est pas moi je ramène mon mec, toi tu ramènes ton mec, et au final le coach peut pas jouer les joueurs à leur poste.
Ouais. Mais au-delà de ça,
alors Meshad.
Mais au-delà de ça,
avant de prendre Juba,
même elle manque de caractère. L'équipe, elle manque de caractère. Il n'y a pas de chien dans cette équipe. Il n'y a pas de
leader.
Mec qui va aller au mastic, mettre le tampon, mettre le coup d'épaule, tenter un truc. Il y a tout le monde à baisser les bras, j'ai l'impression, dans cette équipe.
Là où je te rejoins, je le dis depuis le début, moi, hein, c'est mon point de vue perso, c'est que pour moi, certains gars n'ont pas été remplacés.
Ouais.
Et je suis désolé, le recrutement du PSG, alors, il y a Kin qui marque un petit peu, Danilo, bon, ok, ça reste un bon joueur, mais malheureusement, ce ne sont pas, moi, pour moi, des joueurs à même à apporter un réel plus à l'effectif par exemple. Pour moi, il est, je trouve, relativement faible.
Ça se ressent depuis l'absence de Thiago Motta. Il n'a jamais été remplacé.
Bien sûr, mais par rapport au niveau de ce qu'on attend du Paris Saint-Germain, il y a un 11 qui est capable, on l'a vu face au Bayern, mais après, en termes d'effectifs, pour moi, il y a trop de différences sur certains postes.
Le 01 53 48 3000 pour réagir avec nous, chers auditrices et auditeurs de Bord FM, mais en la personne de Jouba qui nous qui veut nous dire le bonsoir ce soir et qui veut réagir concernant le Paris Saint-Germain en Champions League. Bonsoir Jouba, comment ça va?
Ça va, Bilal, salut tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous depuis la Réunion, tu l'as dit. Je voulais quand même un peu parler du PSG. C'est vrai qu'il est dans une situation plus que délicate, avec une victoire impérative. Là où je suis absolument pas d'accord avec Alisson, qui dit Leonardo s'ingère dans les décisions sportives. Il est directeur sportif, il est au-dessus de Tuchel. Tuchel a une marge de manœuvre, mais Leonardo est dans son devoir d'intervenir lorsqu'il voit que Thomas Tuchel fait des choix plus que catastrophiques. Et on l'a dit, Thomas Tuchel, pendant un moment, on se demandait s'il ne cherchait pas à se faire virer. On sait que la symbiose n'est pas là. D'un autre côté, là, il y a quand même des questions à se poser. Tuchel fait n'importe quoi. Leonardo se pose des bonnes questions. Là, on est vraiment dans un climat délétère qui, pour moi, ne présage vraiment rien de bon pour le Paris Saint-Germain ce soir. En fait, pour moi, je laisse très, très peu de chance à ce collectif-là avec le climat autour de la direction et des décisions du coach. Je pense que le Paris Saint-Germain est dos au mur, mais cette fois-ci, je pense que quand c'était le Final 8, ils pouvaient faire fi de la direction du coach parce que il n'y avait pas un impact aussi important. Là, il y a trop d'impact. Leonardo, Tuchel, la relation, elle pèse trop sur cette équipe-là.
Ouais.
Et aujourd'hui, quand il disait, pour répondre au coach Tolé, quand il disait, là, on a compris qu'il faut qu'on joue ensemble, et ben là, ils ne peuvent plus jouer ensemble parce qu'il y a trop d'interférences de la direction, du coach, etc. Moi, je pense que le PSG, c'est triste à dire, mais après avoir été finaliste, je laisse très, très peu de chance à cette équipe. Très, très, très peu de chance.
Réaction peut-être avec le coach. Allez, avec Alisson. Et après, peut-être au coach Solé.
Dans
la pause.
Je suis ravie de dire n'importe quoi, Jouba.
Et taquine Jouba.
Il y a une différence entre choisir les joueurs et imposer les joueurs déjà dans un premier temps. D'accord? Et il y a une autre différence entre ramener des joueurs et l'imposer dans le 11 du coach. Et je pense pas qu'un directeur sportif, son rôle est d'imposer les joueurs dans le 11 titulaire. Donc si toi, tu ne vois pas de différence, en tout cas, moi, j'en vois une.
Non mais Jouba, le directeur sportif, peu importe le club, pour le coup je vais défendre Alisson, il n'interfère pas dans les décisions tactiques du coach. Le coach s'occupe de la tactique, du match. Après, lui il s'occupe du recrutement des joueurs en fonction de ce que veut l'entraîneur, mais il n'a pas à intervenir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'avait absolument pas son mot à dire quand Danilo était en défense centrale au lieu du milieu de son poste naturel. Quel milieu de terrain?
Il doit s'éteindre, le directeur sportif.
Qui est le meilleur joueur aujourd'hui au PSG? C'est un mec qui s'appelle Moïse Kean, c'est le mec qui plonge le plus de buts, c'est le mec qui sort le PSG du truc. Et qui a été cherché? Qui n'a pas voulu de Moïse Kean? C'est Tourelle. Au bout d'un moment, il faut le.
Moi, je suis d'accord avec toi.
Bien sûr que tactiquement, il n'a pas son mot à dire, mais le directeur sportif, il met aussi les pions en jeu. Et c'est un travail à deux. Sinon, on a un coach manager comme il y avait en Angleterre, mais là, ça ne marche pas comme ça en France.
Ouais, ça marche pas comme ça. Alors Leonardo, à la particularité quand même, tout dépend du profil du directeur du DS, d'avoir été joueur, d'avoir été entraîneur.
Aussi.
Maintenant, je suis désolé, il peut avoir son avis, comme l'a dit Michel, il a bien résumé sur d'autres aspects, mais le terrain, qu'on soit pas d'accord, qu'ils mettent même Danilo numéro 10. Je suis désolé, dans l'esprit, c'est Tourelle qui décide. Dans ce cas-là, ça devient la Bérézina et chacun décide de faire sa composition parce que je t'ai ramené un test, je dois te le faire jouer. Après, là où je te rejoins, on est tous d'accord là-dessus, c'est que oui, il y a, c'est en train d'imploser et on le voit même à l'extérieur de par les attitudes.
C'est ça aussi. Parisien. Exactement, Fred. Non, mais avant de terminer, Jouba, on va avoir Fred et après on va terminer avec toi rapidement.
Là, on parle d'un problème de face, mais le problème de fond, c'est de savoir si Tourelle, il a demandé un défenseur central pour remplacer Thiago Silva ou il a demandé une sentinelle. C'est le problème, il vient de là. Danilo, c'est
où on prend. Il était là, il était remplacé, t'as Marquinhos.
Et Marquinhos ce soir, il joue quel poste? Il joue défenseur central.
Eh ouais.
Mais le problème, c'est qu'il y a un manque de communication criant entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consultation entre Leonardo et Tourelle. Leonardo fait son mercato, il va chercher ses joueurs, il ne consulte pas Thomas Tourelle. Donc, parti de là, on ne peut pas bien avancer avec des joueurs que le coach ne veut pas, forcément.
C'est pour ça que je dis, je pense qu'il faut une défaite ou un nul ce soir pour que la décision s'accélère, parce que clairement ça peut pas continuer comme.
Jouba, pour terminer, voilà. Le pronostic, on termine avec toi.
Tu veux faire quoi? Ça y est, maintenant le PSG, ils ne peuvent pas virer Tourelle. Ils ont fait la bêtise avec Leonardo, ils ont craché des millions d'euros.
Non, ils vont attendre la fin de saison.
Ils sont pas à 10 millions près, Jouba.
Ils vont attendre la fin de saison quand même.
Et puis il y a aussi un truc, les gars.
On termine.
Le bassin d'hypocrisie qu'il y a eu dans l'interview de Leonardo. Qui a dit qu'il n'y avait pas.
Il est obligé.
On va dire le contraire.
Il est obligé, Jouba.
N'importe quoi. C'est un mensonge sur mensonge.
Il est obligé. C'est une communication. Il est obligé.
Mais oui, c'est une question de posture. C'est une question d'institutionnalité.
Et bien
sûr.
On ne
peut pas dire le contraire.
Jouba, le pronostic ce soir, le PSG.
Bah, moi, je pense que le PSG va sortir. Je suis désolé de vous le dire.
Carrément, Jouba.
Il va clairement sortir.
Il balance comme ça sur l'antenne de Beurre FM. Pour toi, le PSG sortira ce soir.
Ah mais c'est très bien. Souvent quand je dis des pronostics, en plus je suis bon.
On verra Jouba. Merci Jouba. Un grand merci Jouba. Et bien sûr un petit bonsoir au FC Messi, hein, ne l'oublie pas. Et un gros dodo Jouba. Un grand merci de nous avoir appelé. Faites comme lui, le 01 53 48 3000. Nous on revient de suite avec l'Olympique de Marseille.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, jusqu'à 20h, on est ensemble avec Alisson, avec Fred, pour la première fois avec nous dans cette émission qui est Time Sport, le coach Etolé et Meshad. Allez, on prend directement le chemin du Roazhon Park.
Time Sport, le ras-le-bol.
Eh oui, que dire? Rennes est-il capable justement d'essayer de renverser cette fameuse situation dans cette coupe aux grandes oreilles, la Champions League édition 2020-2021? Et le score dès à présent? Eh oui, je crois que les Anglais ont marqué, quoi.
Ouais, après 27 minutes de jeu, ouais, c'est Chelsea qui a ouvert le score et qui mène en tout cas du côté de Rennes 1-0. Après, je pense qu'il ne faut pas attendre grand-chose du stade rennais. Le PSG a une situation particulière.
Direct, il attaque, quoi.
Marseille aussi.
Ah, il suit bien, en plus, les Bretons. C'est vrai.
Mais c'est leur première participation. Donc, eux, ils sont dans un moule où le club est en train de progresser. À leur échelle, le fait déjà d'être arrivé cette année en Ligue des Champions, ça reste quand même un exploit pour eux.
C'est dans la progression
du club.
Ils engrangent de l'expérience, faut pas attendre en attente de trop. T'as quand même le FC Séville et Chelsea qui sont des habitués aux Jeux européennes. Par contre, voilà, s'ils arrivent à accrocher la troisième place, ce serait
Mais Chad, c'est dans l'évolution quand même.
C'est dans l'évolution du club. Tout est bien construit et effectivement, tu peux pas espérer d'une équipe qui est nouvelle sur cette scène européenne de faire exploit sur exploit. Là, ils se font très nettement dominer. Il y a plus de 60% de possession de balle pour Chelsea ce soir, et avec un but très beau d'ailleurs de Hudson. Hudson Odoi, pardon, excuse-moi. Donc tout a été mis en place depuis l'année d'avant la victoire en Coupe de France pour Rennes, pour construire une équipe cohérente en tous les cas. Et c'est vrai qu'ils se développent très vite, quoi. On attendait d'eux peut-être un peu plus de performance sur la scène européenne, mais en Europa League dans un premier temps. Et le contexte l'année dernière a fait qu'ils sont aujourd'hui en Ligue des Champions. Mais là, il a failli avoir un deuxième but d'ailleurs. C'est un peu tendu.
Ouais.
Enfin, bon, bref. Voilà. En tout cas, le club de Rennes est effectivement très cohérent. Ouais. Alors, c'est vrai que là, c'est un petit peu compliqué en Ligue des Champions.
Alors, Fred, justement.
C'est vrai que Rennes, c'est un projet intéressant en Ligue 1, comme il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est toujours pas, c'est pas Lille. C'est un jeune projet depuis qu'Olivier Létang a pris les commandes. Julien Stéphan est un hyper bon coach. Je souhaite que du bien. Mais bon, quand tu viens jouer contre Chelsea, qui pour moi est, avec le Bayern Munich, l'équipe la plus en forme en ce moment en Europe depuis le début de la saison, qu'ils ont un réservoir de joueurs important.
Rennes, ça, c'est vrai.
Rennes, il se présente avec une défenseur, avec un défenseur central, Niamsi, qui n'a pas joué depuis février. Donc, il joue la troisième place. L'Europa League, c'est un beau challenge.
Faut pas oublier le recrutement de Chelsea cet été, hein. Werner, Harvert, Ziyech. J'en oublie d'ailleurs probablement, mais enfin voilà, c'est un recrutement comme personne n'a fait. Thiago Silva, exactement.
James à droite qui s'installe, qui est super bon.
Exactement. C'est un recrutement comme personne n'en a fait cet été, hein, parce qu'ils n'avaient pas pu recruter l'année dernière, donc ils ont les moyens et c'est un vrai prétendant pour cette Ligue des Champions.
Allison.
Moi, je suis un peu plus optimiste. Je les attendais quand même un petit cran au-dessus, les Rennais, dans le jeu. Mais après, vous l'avez très bien résumé autour de cette table. C'est une équipe jeune, c'est une équipe qui apprend, c'est une équipe qui fait sa première participation en Ligue des Champions. La marche est peut-être un peu trop haute parce que le groupe n'est pas facile dans lequel ils sont tombés. Donc, ça prépare pour les amener à venir. Là, ils vont se forger sûrement s'ils arrivent à atteindre la troisième place en Ligue Europa. Et dans les années à venir, on sait qu'on pourra compter sur Rennes.
Une place forte dans le football français, peut-être, Alisson, Fred, les Rennais ont construit. Le coach est tolé, vraiment. Pour les saisons à venir, elle dit, pour les saisons futures, ça pourrait le faire.
C'est vrai qu'il y a des indicateurs positifs, il y a des signes avant-coureurs. Quand tu as un des meilleurs centres de formation de France, tu sors des joueurs comme Router, Sopi, Truffet qui joue, Boho. C'est des joueurs qui ont du talent, qui pourront s'inscrire dans la durée, dans le projet de Rennes. C'est un projet intéressant qui est encore jeune. C'est vrai que ils vont jouer une finale, j'espère, contre Krasnodar. Si Krasnodar ne prend pas de points, eux non plus. Et si on peut les voir en Europa League, ce serait formidable. Ce serait un beau challenge.
Et puis, en plus du centre de formation, peut-être des joueurs à se former. Quand on voit le niveau de jeu de Mendy, le gardien de Rennes, qui est parti à Chelsea et qui est monstrueux sur sa ligne. Enfin, voilà, il y a Borigio, il y a des très bons joueurs aujourd'hui à Rennes. Qui se forme à Rennes avant de partir peut-être vers des clubs un peu plus ambitieux, on va dire, sur la scène européenne. Mais tout est très cohérent. Et encore une fois, quand t'as tes dirigeants qui connaissent le football, qui sont dans le football ou qui ont joué dans le football, bah forcément, ça va beaucoup mieux.
Quand le projet est intéressant, intelligent,
cohérent.
Cohérent, c'est peut-être
après,
ça. Après,
le Stade Rennais, faut oublier qu'ils ont quand même une douzaine d'années où t'as toujours eu de bonnes équipes à Rennes. T'avais cette équipe du Stade Rennais qui arrivait à terminer entre
c'était l'éternel poussait, quoi.
La cinquième et septième place, qui avait souvent de bons
du
centre de formation. T'as des gars comme Viltor qui sont sortis, comme Gourcuff, par exemple, pour citer que. Et c'est vrai qu'ils faisaient partie, ils ont toujours fait partie du top 3 stand de formation français. Et puis voilà, ça a bugué un petit peu au niveau professionnel, parce que Pinot a quand même lourdement investi lors de son arrivée dans les années 2000. Puis après, il s'est rétracté un petit peu. Et c'est vrai que Lamouchi, dans un premier temps,
il a fait du bien, Lamouchi, comme elle le disait, supplémentaire
au Stade Rennais depuis 2-3 saisons.
Mais tu vois que le projet il est différent. Richard, tu vois qu'il y a un vrai projet qui se dégage.
Ça a basculé.
Là, tu sens que c'est un club qui veut qui compte parmi les meilleurs en France et qui veut faire partie du top 3-4 français, quoi. Tu sens que vraiment, il y avait un truc où ils n'arrivaient pas à passer, c'était l'état.
La présidence s'est réveillée, peut-être.
Voilà, c'est ça. Ils étaient très irréguliers, ils étaient capables de faire des belles choses. Et là, c'est vraiment très, très solide, très construit. Julien Stéphane, il était beaucoup décrié au départ, finalement. Ouais. Il est maintenu, il fait du bon boulot. Mmh. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose de positif autour de cela. Et je trouve qu'avec Lille, c'est un des projets les plus solides que l'on ait en Ligue.
Ouais, Fred, on t'écoute.
C'est vrai qu'il y a un trident à Rennes. Il y a le coach, il y a le président. Olver, j'écoute un interview de lui cet après-midi qui disait qu'il y avait quand même des signes positifs. Même le match allait contre Chelsea, mais ils ont pris 3-0.
Ouais.
Il y a quand même des signes positifs. Et il y a le Tank qui a été au PSG. C'est un mec qui a de l'expérience.
Ouais.
Non, c'est un projet intéressant.
Ils sont pas dans le projet de vendre à tout prix aussi. On a vu cet été avec Mbagnan qui devait peut-être aller à Marseille. Ils ont refusé ou alors ils ont dit c'est Nyang, c'est tant, et vous mettez tant. Si vous mettez pas tant, tant pis pour vous. Marseille n'a pas pu mettre tant.
Et ça fait partie d'une
institution, en fait. Il commence à se former en tant qu'institution maintenant.
Pas faux. Commence à grandir. Le coach Tolé, Alisson.
Nyang a disparu des radars.
Non, il a été réintégré, il est rentré le week-end dernier, mais il jouait plus, ouais.
C'est que c'est vrai qu'il a complètement, ce vrai transfert.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, Alisson, d'accord avec tout ça. Comment coach-il peut-être à ses clubs français pour essayer de gravir encore un échelon? Oui, une marque.
En général.
Oui, en général, par exemple. La mentalité, peut-être celle de Grinta.
Moi, je dirais le jeu. Moi, je dirais le jeu.
Choix, Fred. Le jeu.
Le jeu, quand je vois Lille jouer comme Lille joue actuellement, c'est fabuleux, quoi. Et ils sont capables de faire. Pour moi, Lille, d'un point de vue du jeu, rivalise avec beaucoup de très bonnes équipes. Je ne veux pas dire les meilleures équipes.
Ouais.
Mais rivalise avec beaucoup de très bonnes équipes européennes.
La compétitivité, tout simplement.
Et aussi, le travail. Malheureusement, cette Ligue des talents.
Au même point.
Oui.
Finalement, c'est que la Ligue 1 manque de compétitivité. On a le Paris Saint-Germain et les autres. On a le Paris Saint-Germain et les outsiders qui arrivent
loin derrière quelquefois.
À quelques branches. Et finalement, on a la Ligue 1 avec quelques clubs qui dominent. Et quand on bascule sur la scène européenne, on se rend compte que le niveau de jeu, c'est pas la même chose. C'est un, deux, voire trois crans au-dessus. Donc voilà, une meilleure compétitivité. Peut-être que là, on pourra passer dans une autre ère au niveau de nos clubs français.
On l'espère. Oui, Fred.
Comme tu dis, Alisson. En Ligue 1, il manque des projets. Il y a que quelques clubs qui ont un projet. Il y a Nice qui a un projet. Il y a l'OL. Il y a Lille. Il y a le PSG. Derrière, il y a plein de clubs qui veulent vendre depuis un moment. On le sait, comme Saint-Etienne.
Marseille aussi qui avait un projet.
A du mal à définir.
On va parler de Marseille justement.
C'est pas pareil.
On va parler de Marseille.
Et c'est vrai que bon, moi je regarde pas les entraînements. Hein, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup dire en France on travaille moins. Mm. C'est sûr que si tu travailles moins, s'il y a moins de rythme, s'il y a moins de compétitivité en Ligue 1, sur la scène européenne, t'as plus de mal.
Et la compétitivité.
Mais on progresse.
Et la compétitivité, c'est très intéressant ce que tu dis.
Ouais,
tu vois, il y a souvent un débat qui se fait autour de la compétitivité et on dit qu'en Espagne, par exemple, mais c'est la même chose. T'as le Real, t'as le Barça, allez, l'Atlético, mais sinon, le reste, c'est très faible. Sauf que le reste, ça joue au ballon, quoi.
Ouais,
ça joue au foot. Ouais. Mais c'est pas pareil. Non mais c'est important de le dire.
C'est pas pareil.
Même les petits clubs aujourd'hui affrontent le Barça dans les yeux, le Real dans les yeux, en jouant au football, tu vois. Et donc dans la confrontation, dans le rythme, dans les courses à haute intensité que tu répètes, c'est pas pareil. Et c'est pour ça que en Europa League ou en Ligue des Champions, ces clubs-là sont plus performants que les nôtres.
On termine avec Rennes, avec toi.
Sur l'état d'esprit, la mentalité qu'on n'a pas, je pense qu'on chouchoute trop nos joueurs. Malheureusement, on est dans des projets où on est plus amené à être concentré économiquement à vendre le meilleur joueur et je pense qu'il y a une perte d'identité aussi. Enfin moi c'est ce que je ressens et on le voit sur la scène européenne. Ce qui est paradoxal c'est qu'on est capable de former apparemment on a les meilleurs joueurs mais c'est prouvé à tous les niveaux. Ils évoluent dans les plus grands clubs européens mais par contre on n'est pas capable d'avoir une Ligue 1 avec un minimum de jeux posés. Même si tu t'es amené avec des joueurs moyens, il y a pas véritablement de projet de jeu.
On va voir si
Daoudio qui fait des choses pas mal, mais c'est vrai que ça manque d'idées.
Un ou deux ou trois. Ouais.
Pas tellement. Et là, pas tort, là, Fred, le coach Etolé. On va s'attarder là cette fois-ci sur l'Olympique de Marseille. On prend la direction du sud de la France.
Time Sport.
Eh oui. On a aperçu un peu, on a entendu du moins des tacles, qui peut-être des petits pics de Méchade ou encore de Fred.
Moi.
Concernant la direction, concernant c'était quoi? C'était en faveur de l'Olympique de Marseille. Et oui, parler justement avec Alisson ce soir avec Fred ou avec le coach Tolé et Méchade de ce point. Et ça serait bien de prendre au moins un point. Il en a honte. Il a dit en conférence de presse, c'est le meilleur, le joueur préféré de Yanis, notre réalisateur, Flo Flotovin. Eh oui, il aime tant. Il aimerait le voir jouer avec un certain Karim Benzema du côté de Madrid. Le coach Tolé, on revient à toi justement.
Il a raison, au-delà que l'OM n'ait plus disputé de la Ligue des Champions depuis cette saison, faut pas oublier que tu as des joueurs qui ont très peu d'expérience, qui ont très peu joué à ce niveau de la compétition. Lorsque tu représentes les clubs français, et notamment l'Olympique de Marseille, pour l'histoire que ça a dans le football français, tu te dois de montrer les crocs, d'avoir envie, tu vois. On te demande pas de battre City absolument, mais on te doit de représenter fièrement les couleurs du club olympien. Et c'est vrai que là, quand tu les vois jusqu'à présent, t'as le sentiment que, alors souvent on entendait oui, à Marseille, on joue les coupes d'Europe à fond. Là, ça fait quand même depuis les deux dernières.
Ah là, c'est incroyable quand même.
Ça joue pas totalement.
Ah, ça joue pas là.
Il y a quand même un point extrêmement important de ce que représente la Ligue des Champions.
Gros coup de gueule de Pascal Onetta, ancien portier de l'Olympique de Marseille. Ça y va aussi. Il y a des taquets qui se perdent.
Oui, non, mais moi je vais être un peu dur dans mes mots et.
Allez, vas-y, Alisson, on t'écoute.
Tous les supporters de Marseille, mais cette équipe fait pitié. On a pitié, on a mal au cœur, on a envie de les prendre dans nos bras et dire allez les gars, ça va aller, sortez et construisez après. Mais là, c'est complètement ridicule ce que fait Marseille. Marseille ne propose rien, pas de jeu, pas d'envie, pas de grinta. Il y a un moment où ils ont tout fait pour toucher cette Europe du doigt. L'année dernière, on les entendait, on veut revenir sur la scène européenne. Quand ils ont gagné contre Paris en ce début de saison, on avait l'impression que dans leur tête, ça y est, ils revenaient, il y avait quelque chose, et que enfin on allait avoir ce Marseille qui revenait, même si on sait que l'effectif n'est pas top, même si on sait qu'il y a beaucoup de jeunes, mais on attendait au moins de l'envie. Là, Marseille fait pitié en Ligue des Champions et franchement, qui sortent. Et en plus, ils vont sortir par la petite porte.
Aïe. C'est dommage. Fred, non, vraiment dommage, elle le dit, Alisson.
Ce qui me désole le plus, c'est qu'ils font pas mieux que leur précédente édition où il y avait eu un match contre Naples, où il y avait eu un but de Thauvin.
Borussia aussi.
Après, voilà, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas le vélodrome. Et moi, je suis sûr que si, par exemple, Amavi récupère le ballon, tu entends le vélodrome qui crie, qui hurle, il y aurait eu ce supplément d'âme dont
le deuxième homme, quoi.
Ouais, mais bon, il n'y a personne qui joue avec ses supporters.
C'est ça aussi.
Je sais pas s'il y a des auditeurs de Marseille ou des supporters de Marseille qui nous écoutent, mais franchement, ils doivent avoir une grosse pointe au cœur, hein, parce que tu te rends compte là, l'ambition aujourd'hui de Marseille, c'est peut-être de choper un point.
En fait,
c'est le jeu qui cherche. Non mais moi,
je le répète
parce qu'on m'a
un point pour l'Olympique de Marseille.
Parce qu'ici, on m'a traité du supporterisme, etc. Mais à quoi sert cette Ligue des Champions pour Marseille aujourd'hui? À quoi elle sert?
Alors, qui a la réponse? Peut-être les auditeurs.
Qui va partir dans cet effectif? Il y a tout le monde qui va partir.
Ils ont pris un peu d'argent, donc ça comble un peu la dette marseillaise.
Qu'on le veuille ou pas,
pour plomber leur saison actuelle.
Qu'on le veuille ou pas, alors qu'on le veuille ou pas, là, je suis carrément d'accord, mais ça fait.
Alors le coach Tolé.
Faut bien repartir sur de nouvelles bases. Alors après, c'est vrai que ça fait pitié. Voilà, on entend Marseille qui montre rien, Marseille à zéro, Marseille qui est tout près d'être peut-être la seule équipe à avoir 13 défaites consécutives, ce qui ferait.
Ça reste incroyable quand même.
Maintenant, comme dans le football, rien n'est fait. T'as la moitié des matchs. Il y a une réalité. T'as la possibilité de prendre les points contre à domicile. Tu joues Porto Olympiakos.
Allez, si, tu peux essayer. Pourquoi pas les 3 points.
Est-ce que tu crois vraiment
pourquoi pas Alisson quand même.
En prenant Porto Olympiakos, ils prendront les points. Je m'en doute pas.
Alisson disait moi j'ai envie de les prendre dans mes bras. Les gars, moi à votre salaire, j'ai pas envie de vous prendre dans les bras. Déjà, faites des centres, faites des passes, faites des trucs. À un moment donné, on parle de Marseille. Dans cette compétition là, en Ligue des Champions, il y a des équipes qui sur le papier sont plus faibles que l'Olympique de Marseille. Qu'on arrête de me dire que ils font avec ce qu'ils peuvent, c'est pas vrai. À un moment donné, montre. Enfin, je sais pas.
C'est autre chose. Marseille doit s'activer.
Et même encore une fois, même Villas-Boas, il a sa part de responsabilité.
Et
je le répète, on a plus l'impression que Marseille cette année sont spectateurs de la décision qui a été de les mettre en Ligue des Champions plus que acteurs, parce que
c'est grave ce que tu viens de dire.
Grave, mais c'est la vérité, ils ne font rien. Et là d'ailleurs, je me permets de comparer par rapport au match que là je vois en même temps, parallèle de Rennes, qui est en train de se reprendre et qui est en train de faire un très bon match, reculer Chelsea. Mais tu vois, et pourtant Rennes sur le papier encore une fois n'a pas une équipe largement inférieure à Marseille. Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on leur donne un milliard d'excuses, mais les gars, gars, c'est pas moi qui ai forcé Dimitri Payet à arriver hors de forme, c'est pas moi qui ai forcé Florent Thauvin à être le sauveur de l'Olympique de Marseille et à vouloir jouer tout seul, c'est pas moi qui n'arrive pas à mettre la dernière passe à Benedetto pour tirer au-dessus alors qu'il est tout seul face au but, à un moment donné. Arrêtons.
Mais pour le football français, comme
le
PSG, il faut bien être positif pour l'OM, non ?
Mécha,
tu l'as dit. Non, tu l'as dit.
On a Malek qui nous dit arrêtez de laisser parler Mécha, le Lyonnais.
Je reprends ce que tu as dit au début.
Et pourtant, il est franc, Mécha.
Le français et l'indice UEFA.
Mais ça fait mal.
Le PSG s'impose. On est d'accord ou pas ? Le PSG a 3 points, a seulement une victoire de plus que l'OM. C'est incomparable. Mais on demande au PSG de la gagner avec des champions. Pour le moment, ils sont peut-être.
Alors oui. C'est un coup de gueule que je pose. Sur l'équipe, sur la direction, sur le projet, sur tout.
Et il a pas tort.
Moi, je réponds à votre question. À quoi sert cette édition de Champions League pour Marseille ? À réparer les pots cassés financiers qu'ils ont eu par le passé. T'enchaînes les mauvais choix.
Ça va pas la réparer, Fred, parce qu'ils sont en train de plomber leur saison, en fait. Donc, en fait, ce qu'ils ont gagné,
mais la Ligue 1 va en ralenti.
C'est positif.
Forcément, c'est plus de 40 millions de gains. Donc, forcément, ça comble un peu. On sait que Marseille, c'est un club énormément endetté. Je suis désolé, Fred, de t'avoir coupé. Mais forcément, ça comble un petit peu. Maintenant, ça plombe leur saison. Ils font pitié. Ils sont ridicules. Mais financièrement, c'est toujours intéressant.
Mais si Marseille fait 10e, j'ai une bêtise. Si Marseille fait 10e, est-ce que cette qualité en Ligue des Champions va combler le déficit qu'ils vont avoir.
Je suis d'accord que non, mais en championnat, Marseille a 2 matchs de retard en gagnant ses matchs. Ils sont deuxièmes en étant mauvais. Hein.
C'est
une réalité aussi.
Oui, bien sûr, mais
quand même. Notre faiblesse de la Ligue.
On parle de Marseille.
Mais là où je rejoins Méchad et les autres, c'est que l'OM reste quand même à une place importante dans le football français. Et les voir comme ça, ça fait clairement pitié.
Ça fait pleurer, Alisson.
Il reste trois matchs.
Ça, c'est triste quand même.
Ça fait pas pleurer.
Zéro point.
C'est triste quand on connaît le background de Marseille. Les voir comme ça aujourd'hui, ça fait pitié. Ça doit pleurer du côté de la bonne mère. Mais moi, ça me fait pas pleurer, comme dit Méchad. Moi, j'ai aucune pitié pour des joueurs qui n'ont pas d'envie. J'ai aucune pitié pour des joueurs qui ne savent pas centrer. C'est encore des professionnels. Moi, on met sur le terrain, je pense que je fais des meilleurs centres que certains. Donc, il y a un moment où il faut déposer ce qu'on a sur la table et y aller.
Intéressant, l'auditeur.
C'est très dangereux pour Rennes au 20 mètres.
Et justement, Mourad qui nous disait se qualifier pour la Champions League, et que côté cadres sont en fin de cycle et que derrière, si tu ne recrutes pas, ça devient très compliqué. Le 0153483000, vous restez avec nous, la dernière partie avec encore du football et aussi de la NBA.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
Tour sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie de cette émission qui est Time Sport, du lundi au vendredi, 19h-20h, je le rappelle, le 0153483000, vous pouvez réagir avec toute l'équipe. Ce soir, on a Alisson, on a Fred avec nous pour la première fois, le coach Tolé et Méchad. Alors, on va s'attarder cette fois-ci sur les déclarations d'un certain Antoine Griezmann.
Time Sport, la victoire.
Eh oui, il voulait s'asseoir à la table de Léo Messi et Ronaldo, que dire, Fred, et aussi Méchad. Antoine Griezmann, il est là quand même, le champion du monde en titre avec l'équipe de France.
On a compris quoi.
On va le laisser. Allez, en plus, il aime beaucoup ce jeu ibérique.
Même lorsqu'il avait fait cette déclaration, pour moi, il était déjà passé à leur place en fait. Même après avoir fait une super saison avec l'équipe. Après l'Euro 2016, pour moi, elle n'était déjà pas à leur table. La déclaration était déjà caduque au moment où il a dit.
On n'est pas sévère avec Antoine Griezmann aujourd'hui.
Ah non.
Ou même le camp Messi. Allez, pourquoi ? Dis-nous tout, Alisson.
Il y a un moment où moi, je l'aime beaucoup, Antoine Griezmann. Je suis la première à le défendre, mais il y a un moment, il faut arrêter. Calimero,
bon,
ça va deux minutes.
Oh, c'est sympa, Calimero, arrête.
Non, c'est un Calimero, là, pour le coup. Que ce soit lui, que ce soit son entourage, que ce soit sa sœur aussi, qui est son agent, il y a un moment, il faut arrêter. Messi n'est pas responsable de tous les maux d'Antoine Griezmann. On dit oui, mais il n'y avait pas d'entente. Alors ça a commencé quand Antoine Griezmann l'année 2018 devait signer au FC Barcelone, mais il a refusé. Déjà ça a été mal pris par le vestiaire. Ensuite il a signé, mais il a été bien accueilli dans le vestiaire, même si Messi était un peu ranchon. Mais il y a un moment où c'est passé. Le mec, quand il est sur le terrain et qu'il rate des buts à 6 mètres, c'est pas Messi. Le mec, quand il est sur le terrain et qu'il a un déchet pas possible, c'est pas Messi. Le dernier match du FC Barcelone, il y avait pas Messi sur le terrain. Antoine Griezmann était fantomatique aussi. Donc il y a un moment où il faut arrêter de mettre tout sur le dos de Lionel Messi. Lionel Messi à bon dos, comme l'a dit Fred. il était déjà pas à leur table quand il a dit oui, moi je m'assois alors à la table de Cristiano Ronaldo, Messi. Aujourd'hui, c'est le serviteur de Messi, rien de plus, qu'il arrête Antoine Griezmann. Comme je dis à chaque fois, qui bombe le torse, qui prouve qu'il est champion du monde et qui joue. Mais accuser tel ou un tel ou un tel, c'est trop facile, t'es nul.
Mais c'est ce qu'il a essayé de faire. Il a essayé de bomber le torse, justement, il a attendu un an et demi avant de faire ses premières déclarations. Donc c'est qu'il a essayé de prouver sur le terrain, mais là, il n'a pas réussi.
Il n'a rien prouvé sur le terrain.
Même
cette déclaration, le mec il dit allez, je vais mettre les barres sur les T, les points sur les I. Là. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a juste dit ce qu'on savait, c'est-à-dire que il essaie de faire en sorte que ça aille mieux, que son nom qui lui parle pas, que c'est pas de sa faute, que il est voilà, lui.
Que Olaf lui parle plus.
Ouais, voilà. Enfin, tu sais, qu'est-ce qu'il a mis, quel point sur les I il a mis, quoi. Moi, j'ai rien appris en lisant son interview.
Non, mais au-delà de ça, son entourage aussi.
Alors,
il y a sa sœur qui fait des déclarations. Il y a son ancien agent aussi, qui fait des déclarations. Met. Ça l'aide pas, c'est Antoine Griezmann. Je sais pas s'il s'en rend compte, mais ça ne fait que mettre de l'huile sur le feu, au cas, Messi, Griezmann et tout le vestiaire. Il s'attendait à quoi, Antoine Griezmann? À ce qu'on lui baisse les pieds, à ce qu'on lui déroule le tapis FC Barcelone, le FC Barcelone.
D'une certaine manière, quand même, il est champion du monde.
Non, mais pas du tout. S'il avait pas refusé. Avec un gros vestiaire, forcément tu dois faire tes preuves. Qui que tu sois, tu dois faire tes preuves. Comme au Real Madrid, Cristiano Ronaldo, c'était une star quand il est venu, et c'est devenu encore plus une star. Mais il a fait ses preuves. Il a été décrié aussi quelquefois au Real Madrid. Tu dois faire tes preuves quand tu arrives dans un gros
vestiaire. Aussi, quand même Benzema, c'est vrai.
J'ai tout entendu moi concernant Griezmann pour le protéger. Alors certes, c'est peut-être pas évident d'arriver dans un environnement où t'es pas adoubé par le vestiaire. Ça joue quand même sur le quotidien. Il y a aucun problème. Maintenant, quand t'es un sportif de haut niveau, qu'on me parle d'un effectif où il y a pas de souci. Il y a tellement d'ego au niveau professionnel que bien sûr doit avoir du respect, mais à un moment c'est à toi. S'il est si fort que ça, Griezmann, impose-toi aussi.
Oui, le coach.
Moi j'entends il joue à droite, il joue pas dans l'axe. Quand t'as un genre de très haut niveau, d'accord, tu dois être capable de t'adapter. Quand tu as des joueurs qui font partie quasiment des meilleurs à leur poste, tu t'adaptes. Moi, je peux sortir des joueurs qui ont fait carrière à d'autres, dans d'autres animations, et qui ont brillé parce qu'ils sont mis au service du collectif. Donc, à un moment, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que, il est adoubé à l'Atletico, c'est très bien. Arriver au FC Barcelone, pour le moment, c'est un échec. Il faut arrêter à chaque fois de regarder autour de soi, qui regarde au sein de son entourage aussi, et de lui quand il est sur le terrain. Parce que Messi, c'est vrai que c'est l'ombre de lui-même. Il joue pas toutes les rencontres, mais lorsque Griezmann joue, je suis désolé, pour le moment, ça va être depuis un an et demi que c'est très compliqué. Hein.
C'est exactement ce qu'on a dit. Ce qu'on répète, c'est à un moment donné, on a compris. C'est le disque rayé de répéter que il y a eu ci, il y a eu ça. Alors oui, ton intégration, elle a été ratée. Oui, ça a pas été facile au début. Oui, il y a des conséquences aujourd'hui, mais à un moment donné, effectivement, prouve sur le terrain que t'es un grand joueur, parce que faut le rappeler. Hein. Griezmann est un grand joueur, bien évidemment. Sauf que là aujourd'hui, il faut que il aille. Moi, quand je vois des mecs comme Ansu Fati, capable d'être beaucoup plus performant que lui, alors qu'il a que 17 ans et que ce mec a tout le 18 ans, pardon, alors que Griezmann est champion du monde, qu'il a été une star incontestée à l'Atlético Madrid, je veux dire, à un moment donné, montre un peu de caractère et joue. Et si t'as pas envie d'être le mec hyper décisif parce que t'as une ligne de stats qui est pas très décisive, joue pour Messi, joue pour Fati, joue pour ton collectif.
Allez Fred, on termine avec Alisson.
Le problème avec Griezmann, c'était que lorsqu'il était à la Sociedad, il était chouchouté. En équipe de France, il est venu, il a remplacé un peu Ribéry, il a été chouchouté, il a fait un très bon euro. À l'Atlético Madrid, il était chouchouté, il arrive à Barcelone dans un contexte où tu changes, il a eu connu trois coachs, il a connu Valverde, il a connu Quique Setién et maintenant il connaît Ronald Koeman.
Et la pandémie.
Avec une présidence compliquée, une pandémie. Au bout d'un an et demi, avec Messi qui est sur ton dos, quand même, il y a une décharge pour lui.
Fred, rappelle-toi qu'à l'Atlético, au départ, à l'Atlético, c'était très compliqué pour Griezmann. Il avait beaucoup de mal, et là, il a montré que c'était un grand joueur parce que il a bossé avec la tactique,
avec
Diego Simeone. D'ailleurs, il doit bien avoir les nerfs quand il voit comment est-ce que l'Atlético joue aujourd'hui et qu'il voit comment est-ce que lui est
c'est Barcelone.
On termine.
Exactement.
Oui, allez, sonne rapidement.
Je peux aller dans ton sens, mais quand on voit un Ousmane Dembélé plus jeune qui a eu moins de temps de jeu en équipe de France, qui est souvent blessé, quand on voit le comportement de Ousmane Dembélé quand il rentre et quand on voit à contrario le comportement d'un Antoine Griezmann, franchement il y a quand même deux poids deux mesures. Dembélé, il joue, il a la tête haute,
il a un talent fou. Dembélé,
il fait ce qu'il a fait, mais au-delà du talent,
il a un talent fou.
Pas le talent, l'attitude.
Merci.
Je parle juste vraiment de l'attitude. Il y a quand même deux poids deux mesures. Donc
allez rapidement, le coach Tolé, on termine.
Que les joueurs français sont peut-être pas faits pour jouer FC Barcelone quand on a la liste des joueurs. T'en as très peu qui se sont imposés sur le long.
Je parle Julie.
Je pense peut-être Julie, Abidal.
Bah attends, il y a Christophe qui a fait
Il n'y en a pas beaucoup, c'est ça.
Voilà,
la dernière rubrique de l'émission.
Time Time Sport. Le duel. Le duel.
Non, c'était pas le duel. C'était le mode pressing. C'est le mode pressing, justement. On n'a plus trop le temps. Et que dire? La saison reprend dans un mois, le 22 décembre, avec 72 matchs, et oui, dans ce championnat nord-américain de NBA. Pour vous, il y a déjà des favoris? Un favori. Allez, on va faire un tour de table avec Alison. Un club.
J'irais les Nets.
Les Nets? Ouais. Pour Fred? Yes.
Moi, pour moi, je dirais les Golden State.
Eh oui. Warriors.
Moi je dis les Lakers, tant que LeBron est là avec le nouveau recrutement, je pense que
ça pourrait le faire, pourquoi pas. Les Lakers aussi. Alors je tiens au nom de toute l'équipe de Time Sport, oui, d'avoir un petit mot concernant l'ancien star du 15 de France, oui, une figure emblématique du rugby à l'international. On a appris son décès aujourd'hui, Christophe Dominici, excusez-moi. Il est décédé, oui, en ce mardi 24 novembre, à l'âge de 48 ans, l'ex-international. Et oui, il va manquer à la planète sport, à la fédération aussi, un nombre d'associations avec qui il avait œuvré. Voilà. On lui dédie cette émission sur l'antenne de Beurre FM. Et nous, on se retrouve demain, la suite des programmes avec Café des Artistes et Mourad. Bye bye et bonne soirée.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.